de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, à l'ombre de Grothendieck et de Lacan, carrément. Deux génies de la pensée du XXe siècle, convoqués par un autre génie des mathématiques, notre invité Alain Cohn, professeur au Collège de France, lauréat de la médaille Field et de la médaille d'or du CNRS pour ses travaux en géométrie non commutative. Alain Cohn est aussi l'auteur d'ouvrages à nul autre pareil, comme le théâtre quantique ou le bien nommé matière à penser. C'est précisément pour nous donner une autre matière mathématique, pour nous ouvrir à une autre manière de penser et même de créer des concepts nouveaux et fondamentaux qu'Alain Cohn vient de publier chez Odile Jacob, à l'ombre de Grothendieck et de Lacan, un topos sur l'inconscient, écrit à quatre mains en dialogue avec le psychanalyste Patrick Gauthier-Lafaille. Ce topos sur l'inconscient nous entraîne aux limites de notre compréhension sur les traces de ces deux esprits visionnaire, à commencer par celui du plus inspirant et du plus inspiré des mathématiciens, le plus révolutionnaire et radical aussi, Alexandre Grothendieck. Bienvenue autour de la question « Pourquoi et comment les mathématiques créent des concepts fondamentaux ?» avec cet extrait de l'ouvrage ultime d'Alexandre Grothendieck, « Récolte et semaille », lu par la comédienne Anou Grimbert à la Maison de la Poésie à Paris.
Dans notre connaissance des choses de l'univers, qu'elles soient mathématiques ou autres, le pouvoir rénovateur en nous n'est autre que l'innocence. C'est l'innocence originelle que nous avons tous reçue en partage à notre naissance et qui repose en chacun de nous, objet souvent de notre mépris et de nos peurs les plus secrètes. Elle seule unit l'humilité et la hardiesse qui nous font pénétrer au cœur des choses et qui nous permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de nous en imprégner. Ce pouvoir-là n'est nullement le privilège de dons extraordinaires, d'une puissance cérébrale, disons, hors du commun, ni l'ambition, même la plus ardente, servie par une volonté sans faille, qui font franchir ces cercles invisibles et impérieux qui enferment notre univers. Seule l'innocence les franchit. Sans le savoir, ni s'en soucier. En les instants où nous nous retrouvons seuls, à l'écoute des choses, intensément absorbés dans un jeu d'enfant.
Bonjour Alain Cohn.
Bonjour.
On ne pouvait rêver plus belle entrée en matière que cet extrait de Récolte et semaille de Grothendieck sur l'innocence, l'esprit d'enfance, le jeu, l'écoute, à l'écoute des choses. J'ai l'impression que ça aussi, pour vous, c'est à la base, voire le moteur de vos découvertes et de vos recherches en mathématiques, Alain Cohn.
Oui, bien entendu. Je veux dire, en fait... D'ailleurs, Grothendieck le dit de manière plus précise encore, en disant que, si vous voulez, il dit « Je vois maintenant très clairement, et sans résidu du moindre doute, que si, avec des dons intellectuels nullement exceptionnels, j'ai pu néanmoins constamment donner ma pleine mesure. » Donc, en fait, si vous voulez, il faut arriver à faire entendre à nos élèves, nos étudiants, une chose qui est absolument fondamentale, qui est que quand on est devant un problème de mathématiques et qu'on a le temps et qu'on a toute liberté, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller voir sur Internet si on va trouver la solution. Et il est possible qu'on la trouve. En fait, dans pas mal de situations, on la trouvera. Mais à ce moment-là, on n'aura fait strictement aucun progrès. La deuxième méthode, c'est de capturer le problème, de le prendre pour soi et d'aller faire un tour à pied et puis d'y réfléchir, mais tout seul, sans se presser. Et justement, sans avoir cette idée qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Non, il faut s'approprier le problème, y réfléchir longtemps. Et au pire moment, au moment où on aura l'impression qu'on ne comprend plus rien, etc., mais en fait, on sera tout proche de la solution. Et quand on aura fait ce chemin-là, on aura fait un pas immense, qui est qu'on aura créé dans son propre cerveau une image mentale du problème en question. Ce qui fait que jamais on n'oubliera cet effort qu'on a fait Et quand on rencontrera un problème analogue, on dira, vous savez, « Ah, puisque je rencontre un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. » On aura vraiment fait un progrès. Et ce qu'il faut donc arriver à comprendre dans l'éducation, c'est que donner des recettes à appliquer à nos étudiants ou à nos élèves, évidemment, c'est beaucoup plus facile, parce que comme ça, ils pourront passer des examens, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, et ce n'est pas comme ça qu'on progresse.
Voilà pourquoi, alors vous êtes un peu moins radical que Grothendieck, mon cher Alain Cohn,
oui.
Mais vous êtes tout aussi inclassable, tout aussi remuant pour nous, j'ai envie de dire.
Oui.
Je rappelle tout de même que vous êtes professeur au Collège de France.
Je l'ai été, je suis maintenant professeur émérite. Oui.
Professeur émérite au Collège de France, vous étiez titulaire de la chaire analyse et géométrie.
Oui.
Vous avez obtenu la médaille Fields en 1982 pour avoir tout de même révolutionné entièrement la théorie des algèbres de von Neumann. Vous êtes médaille d'or du CNRS pour vos travaux en géométrie non commutative, mais vous êtes aussi, depuis quelques années, auteur d'ouvrages assez stupéfiants.
Mm-hmm.
Je pourrais citer le théâtre quantique. Vous êtes au fond un formidable empêcheur de penser en rond normalement. Alors pas seulement les mathématiques, mais finalement le tout, on vient de l'entendre. Vous nous invitez toujours à penser un peu plus loin, un peu autrement, un peu à côté. Cette fois-ci, c'est donc dans l'ombre du génial et radical Grothendieck, mais aussi du non moins hermétique Lacan,
absolument,
que vous nous proposez. Vous n'avez décidément peur de rien, un topos de l'inconscient. Alors on va évidemment à l'inconne revenir grâce à vous et avec vous sur ces deux termes, ces deux concepts, hein, le topos de Grothendieck, l'inconscient de Lacan. Mais commençons d'abord par comprendre comment l'éminent mathématicien que vous êtes, plutôt moqueur hein, au départ,
terriblement moqueur
vis-à-vis de la psychanalyse en général et de Lacan en particulier, comment vous êtes-vous retrouvé à discuter, à échanger, à écrire cet ouvrage avec un psychanalyste?
Alors, c'est une excellente question. D'abord, je dois confesser que j'étais le premier à suivre, si vous voulez, Bricmont et Sokal, et à rigoler en me moquant, mais comme je l'expliquerai, en me moquant bêtement des écrits de Lacan. Et alors, ce qui s'est produit, c'est que j'étais à un colloque à Cerisy qui était organisé par Étienne Klein sur le temps.
Mmh.
Et dans ce colloque, j'ai fait une rencontre de Patrick Gauthier-Lafaille, qui est psychanalyste, mais psychiatre. Hein, il a fait 5 ans d'hôpital, etc. Donc, c'est un clinicien. Et on a engagé un dialogue. Il était très curieux à propos de certains écrits sur la mécanique quantique, le fait que les expériences n'étaient pas répétables, etc. Et puis un jour, à travers de longues discussions qu'on avait par FaceTime, un jour, il m'a envoyé un email dans lequel il m'a dit « Écoute, je t'envoie un diagramme sans me dire de qui c'était. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, bon, j'ai regardé le diagramme qu'il m'avait envoyé. Et au bout de 2 jours, je lui ai dit « Écoute, Patrick, franchement, ça ne me dit rien, j'y comprends rien, je ne sais pas ce que c'est, etc. » Bon, je lui ai écrit ça. Et la nuit suivante, comme il m'arrive très souvent de me réveiller la nuit à 4 heures du matin, en fait, c'est là que je suis le plus, à la fois sceptique sur ce que je fais et efficace au niveau de la pensée, je me suis dit « Mais... écoute, est-ce que tu n'es pas un peu idiot? Est-ce que tu ne voudrais pas, au contraire, essayer de te mettre à la place, ici, il s'agissait de Lacan, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, quelle était son intuition ?»
Dans ce diagramme.
Dans ce diagramme. Et en faisant cela, je me suis aperçu que, en fait, le diagramme acquérait un sens parfait, limpide, mais qu'il fallait, si vous voulez, faire un effort qui était celui de quitter notre logique du tiers exclu et d'admettre une logique qui est telle que, si vous voulez, la double négation n'est pas équivalente à l'affirmation. Alors en fait, je ne vais pas vous surprendre, parce qu'en fait, nous sommes parfaitement habitués à ce genre de situation, puisque nous sommes capables de dire « il n'est pas impossible que », au lieu de dire « il est possible que ». Et nous savons pertinemment que ce sont deux choses différentes. Donc une fois cette remarque faite, j'ai essayé d'expliquer à Patrick. D'abord, je lui ai dit « oui, ça a du sens ». Et puis, je me suis engagé à expliquer à Patrick ce qu'étaient les logiques intuitionnistes qui ne sont pas, justement, du tiers exclu. Et, à l'occasion, je lui ai expliqué les topos. Et
pourquoi les topos.
Alors, ce que sont les topos, je vais y venir, mais en tout cas, la motivation était simplement de lui donner des exemples de logique intuitionniste dans lesquelles les valeurs de vérité, dans ce qu'on appelle les valeurs de vérité, ne sont pas simplement le vrai et le faux, mais sont plus subtiles.
plus subtil que le vrai et le faux. C'était une intuition de Lacan. Oui. Que vous avez vous-même compris par une sorte d'intuition nocturne, enfin oui, compris, oui, oui. Ou en tout cas ça s'est éclairé par une sorte, oui, d'intuition nocturne, oui. Que finalement Lacan, parlant de l'inconscient, avait dessiné une sorte de topos. Qu'est-ce que c'est ?
Non, alors attendez. Soyons sérieux, et oui. Là c'était le diagramme de la sexuation de Lacan, donc c'était quelque chose de très très spécifique, mm-hmm. D'accord ? Et alors maintenant je vais essayer de vous expliquer effectivement ce qu'est un topos.
Qu'est-ce qu'un topos ?
Alors, qu'est-ce qu'un topos ?
Moi si je regarde dans le dictionnaire, parce que j'ai regardé, définition du dictionnaire, franchement je vous la soumets parce que ça, oui, n'éclaire rien, oui. Topos entre parenthèses mathématique, objet mathématique possédant certaines propriétés d'un espace topologique. Oui, alors, terme introduit par Alexander Grothendieck.
Bien sûr, non, mais ça c'est du cafouille
total.
Vous,
oui, à vous, Alain
Cohn. Et en plus, si vous voulez, c'est malheureusement ce genre d'incompréhension est partagé par une grande, grande partie des mathématiciens.
Ah d'accord.
Alors, il faut que j'explique, si vous voulez, ce qui est extraordinairement nouveau dans le concept de topos qui a été inventé, découvert par Grothendieck, et en quel sens, si vous voulez, bon, bien sûr, les mathématiciens forgent, inventent des concepts dans leur travail. Mm-hmm. Et en cela, si vous voulez, ils sont à la distance infinie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à partir de myriades de situations différentes, de les distiller en un concept.
Donc mais, bien plus fort bien que plus n'importe fort. Quelle intelligence artificielle.
Bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que certains concepts, c'est le cas du concept de topos, acquièrent une dimension philosophique. Alors, je vais vous expliquer, mm-hmm, ce qu'est la dimension philosophique du topos. D'accord ? Alors, la dimension philosophique du topos se comprend de la manière suivante. On avait l'habitude, avant Grothendieck, quand on essayait de comprendre, disons, un espace, on avait l'habitude de le regarder. On regardait cet espace, on regardait ces points, etc. Puis on essayait de comprendre ce qui se passe en regardant l'espace en question. Mm-hmm. C'était la méthode usuelle, la méthode qu'on utilise d'habitude. Quelle est la nouvelle méthode qui vient de l'idée du topos ? Cette méthode est tout à fait extraordinaire. Elle consiste à ne pas regarder l'espace, mais à considérer la théorie des ensembles ordinaires, mais avec un paramètre dans l'espace en question. Alors, pour que vous ayez une représentation mentale, mm-hmm, mettons que ce paramètre soit simplement le temps. D'accord ?
Bon, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'espace,
mais vous regardez un ensemble, la théorie des ensembles ordinaires, oui, celle dont on a l'habitude.
Et on rajoute le temps.
Qui dépend du temps. Elle va dépendre du temps. D'accord ? Elle va dépendre du temps. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça va être un ensemble dépendant du temps ? Eh bien, un ensemble dépendant du temps, c'est pour chaque instant, bien sûr, un ensemble, mais qui a la propriété mirifique suivante, qui est que si on prend un de ces éléments, il aura existé un petit peu avant et il va continuer à exister un petit peu après.
Ok.
D'accord. Bon. Et alors, on s'aperçoit maintenant que quand on fait la théorie des ensembles, mais avec ce paramètre, eh bien, toutes les propriétés, comment dire, extérieures de la théorie des ensembles continuent à être vraies. Toutes. Sauf qu'on ne travaille plus dans la logique du tiers exclu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, si vous voulez, cette chose est vraie ou son contraire est vrai. Mais ça paraît évident, puisque ça va dépendre du temps, si vous voulez. D'accord ? Donc, ce qui est extraordinaire, c'est la fécondité de cette idée, pour deux raisons. La première fécondité de cette idée, c'est qu'en fait, on va arriver à mieux comprendre un espace en le mettant de côté, en le mettant dans les coulisses, et en faisant la théorie des ensembles avec paramètres dans cet espace, que si on le regardait directement.
C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre un espace, là je vous suis, oui, vos mots, oui, en le mettant de côté. Au fond, en ne le regardant côté. Pas, en
non,
ajoutant
on le
regarde un
pas
paramètre,
directement.
Mais on ne le regarde pas
on
directement.
On ne le regarde pas directement, on fait des choses ordinaires, on fait ce qu'on fait d'habitude en théorie d'ensemble. Bon, pour les mathématiciens, on fait des anneaux, des corps, machin, etc. Mais on le fait avec paramètres. Il y a ce paramètre, d'accord, qui est dans les coulisses. Et la deuxième propriété extraordinaire, c'est que, alors que, bon, effectivement, beaucoup de mathématiciens croient que c'est simplement une généralisation des espaces topologiques, en fait, ils sont complètement à côté de la vérité.
C'est-à-dire que les mathématiciens n'ont pas encore saisi la portée.
Bon, disons que Grothendieck le dit
lui-même.
Du topos
de Grothendieck.
Oui, parce que Grothendieck le dit lui-même, si vous voulez. Il dit que, alors que les autres concepts qu'il a inventés, comme le concept de schéma, par exemple, sont entrés tout de suite dans l'utilisation permanente des mathématiciens, le concept, mm-hmm, de topos, lui, non. Et alors, si vous voulez, là, j'ai un avantage particulier qui est que, justement, Il faut les avoir rencontrés sur sa route, les topos, pour les apprécier. Sinon, bon, ben. Et moi, je les ai rencontrés à cause de la géométrie non commutative. Et
il se fait géométrie quantique, enfin non commutative.
Oui, non commutative, c'est-à-dire ce qui correspond au quantique. Et ce qui apparaît, si vous voulez, c'est que il y a exactement la même. Il y a une chose, si vous voulez, qui apparaît en géométrie non commutative, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand on prend ce qu'on appelle un espace non commutatif, il génère son propre temps. Donc ça, c'est une chose merveilleuse, alors que les espaces ordinaires sont statiques. Eh bien, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'en étudiant des espaces non commutatifs qui apparaissent naturellement, on a rencontré, avec ma collaboratrice Katia Consani, on a rencontré les topos. Et on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait une proximité entre les deux théories qui est incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour mieux comprendre les topos, il faut s'apercevoir que les espaces qu'on va étudier, c'est pas simplement des espaces topologiques comme ça. Non, c'est des espaces dans lesquels les points vont se parler entre eux. Donc il va y avoir non seulement les points de l'espace, mais il va y avoir les relations entre les points.
Là vous parlez de topos, vous pourriez parler de géométrie non commutative ou de géométrie quantique.
Oui.
C'est-à-dire au fond, et on va revenir à Lacan tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on absorbe, qu'on digère ce que vous venez nous dire. C'est-à-dire qu'au fond, pour comprendre ça, il faut s'en extraire, il faut regarder ailleurs, il faut arriver à comprendre ce qui est autrement insaisissable par l'esprit ici et maintenant.
Retenons une chose. Retenons que pour mieux comprendre un espace, il faut faire des choses ordinaires avec paramètres dans cet espace en le mettant dans les coulisses. Donc, j'ai expliqué ça à Patrick Gauthier-Lafaille.
Psychanalyste. Qui s'est dit, tiens, les coulisses, c'est quoi?
Non, attendez, non.
Encore plus fort.
Non, encore plus fort. On était en train de discuter et on s'est dit, mais écoute, on est deux idiots. Et alors là, c'était vraiment une révélation, mais qui s'est produite en discutant tous les deux.
Oui.
Et la révélation, c'est la suivante. C'est que finalement, que fait le psychanalyste? Eh bien, il demande à la personne qu'il est en train d'interroger de faire des choses ordinaires. Et il arrive, en analysant ce que fait, il arrive à comprendre mieux cette personne que si il lui disséquait le cerveau ou il faisait des choses comme ça, il essayait de regarder.
Il arrive à pénétrer dans ses coulisses, dans cette pièce d'à côté.
Il arrive, de manière suffisamment subtile, si vous voulez, à comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, on en a déduit la chose suivante. On s'est dit, mais on est idiot, parce que finalement, on devrait avoir comme modèle de l'inconscient exactement un topos. Et on a fait cette conjecture, si vous voulez, à ce moment-là, qui nous a apparu comme une évidence. Et ensuite, on a passé le reste du livre à essayer d'en tirer des conséquences, d'essayer d'analyser sa pertinence, bien sûr, en étant tout à fait critique par rapport à ça. Mais le livre est apparu à ce moment-là, on n'avait aucune intention d'écrire un livre. Et je remercie infiniment Odile Jacob qui a fait tout son possible pour que le livre paraisse le plus tôt possible.
Pour que j'ai sous les yeux, à l'ombre de Grothendieck et de Lacan, un topo sur l'inconscient. Voilà. Alors vous allez nous laisser digérer un peu tout ce que vous venez de nous dire, cher Alain Cohn. Et on va se mettre à l'écoute de votre choix musical, tout à fait dans l'esprit d'enfance et d'innocence, cher à Grothendieck. Les Marches du Palais, interprété par Yves Montand, s'il vous plaît. Et vous nous direz pourquoi ensuite vous allez nous faire retomber magiquement dans le topo, c'est dans l'inconscient. Yves Montand, tout de suite sur RFI.
Aux marches du palais, y a une tant belle fille. Il y a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier. Qu'as-tu la préférence, et c'est en la chaussant, qu'il en fit la demande, qu'il en fit la demande. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, nous dormirions ensemble, dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, couvert de toile blanche, couvert de toile blanche, aux quatre coins du lit, aux quatre coins du lit, quatre bouquets de pervenche, quatre bouquets de pervenche. Dans le mi-temps du lit, dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi, pourrait y boire ensemble, pourrait y boire ensemble. Nous y serions heureux, nous y serions heureux, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde.
Sur les marches du palais avec Yves Montand sur RFI. Et tous les chevaux iront y boire ensemble. À quelle source voulez-vous nous entraîner,
alors, ça,
Alain Cause?
Ça, c'est, je vais vous lire du Grothendieck parlant des topos. Il dit, oui, la rivière est profonde et vaste et paisible sont les eaux de mon enfance dans un royaume que j'ai cru quitter il y a longtemps. Tous les chevaux du roi pourraient y boire ensemble à l'aise et tous leurs sous, sans les épuiser. Elles viennent des glaciers, ardentes comme ces neiges lointaines, et elles ont la douceur de la glaise des plaines. Il continue, il dit, je viens de parler d'un de ces chevaux qu'un enfant avait, il parle de lui, avait amené boire et qui a bu son content longuement. Je vois pourtant des troupeaux innombrables de chevaux assoiffés, il parle des mathématiciens, qui errent dans la plaine. Et pas plus tard que ce matin même, leurs hennissements m'ont tiré du lit à une heure indue, moi qui vais sur mes 60 ans et qui aime la tranquillité.
Il parle des mathématiciens, oui, qui ne comprennent pas ou les qui topos n'ont pas saisi la,
exactement,
portée des topos.
C'est exactement ça.
Autour, oui, de la question pourquoi et comment les mathématiques justement créent des concepts
fondamentaux.
Fred crée des concepts fondamentaux. Oui, vous avez raison. Là, déjà, c'est mon orthographe qui ne va pas bien. Mais peut-être aussi parce que, à l'ombre de Grothendieck, oui, et de Lacan, pour reprendre le titre de votre ouvrage, cher, oui, Alain Cause, oui, il est question aussi de langage, puisque ce monstre, Lacan, oui, a dit que l'inconscient était structuré comme un langage. Et vous, avec Grothendieck, vous ajoutez comment l'inconscient est structuré comme un topos, au sens, absolument, mathématique. Alors, si vous avez besoin d'éclaircissement, chers amis auditrices et auditeurs, attendez encore un tout petit peu et laissons-nous d'abord embarquer dans la voix de Jacques Lacan lui-même.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Approche. L'inconscient, ça parle. Ce qu'il fait dépendre du langage.
ça parle, l'inconscient, disait Lacan, mais est-ce que ça ne parle pas d'abord en langage mathématique, Alain Cohn ?
Je ne dirais pas ça. Je dirais, si vous voulez, que Lacan a approché, il a essayé vraiment de manière incroyable, si vous voulez. Il avait l'intuition que les mathématiques pourraient l'aider à, comment dire, à conceptualiser ce qu'il ressentait, si vous voulez. Il a essayé avec la topologie, de manière assez maladroite. Il a essayé avec les nœuds. Et puis, il a essayé aussi avec le langage. Et alors, ce qui est étonnant, justement, c'est à quel point tous les essais qu'il a fait, tous ces essais divers, etc., sont complètement absorbés par la notion de topos. Vous voyez, la notion de topos est une généralisation des espaces topologiques. Lacan essayait d'utiliser des tores, enfin, etc. Mm-hmm. Le langage aussi. Parce que ce qui est incroyable, justement, c'est que, et ce qu'en général les gens ne savent pas mm-hmm. très bien, c'est que des exemples les plus simples de topos, mais dans lesquels la double négation n'équivaut pas à l'affirmation, proviennent des mots d'un dictionnaire et des relations entre les mots.
Supposons
qu'il y ait un seul mot dans un dictionnaire mm-hmm. et que ce mot soit autoréférentiel. C'est-à-dire, si ce mot a une seule flèche et cette flèche va du mot vers lui-même, mm-hmm. quel est le topos correspondant ? Qu'est-ce que ça revient à dire qu'on va faire maintenant de la théorie des ensembles dans ce topos ? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu de parler, comme on parle d'habitude, d'un ensemble, avec les applications qui vont d'un ensemble dans l'autre, non. On va enrichir l'ensemble avec une flèche qui va de cet ensemble vers lui-même, c'est-à-dire une transformation, ce qu'on appelle dans le livre une évolution. Mmh. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on regarde ce qu'on appelle en mathématiques la catégorie de ces objets-là, elles forment un topos, ce n'est pas du tout évident, c'est-à-dire toutes les propriétés qu'on a d'habitude pour la théorie des ensembles continuent à être vraies pour ces objets-là, d'accord ? Mais maintenant, les valeurs de vérité, c'est-à-dire ne seront plus simplement le vrai et le faux, mais les valeurs de vérité vont être, eh bien, il y a le faux, il y a le vrai, mais il y a être à un pas de la vérité, à deux pas de la vérité, à trois pas de la vérité, à dix pas de la vérité, et ainsi de suite. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la double négation, par exemple, d'être à dix pas de la vérité, c'est la vérité. Donc, vous voyez, le dictionnaire le plus simple possible, un mot autoréférentiel. Et évidemment, après, lorsqu'on va prendre un dictionnaire, lorsqu'on va prendre un langage qui ne tient par son dictionnaire que par les références d'un mot à un autre, ben on va s'apercevoir qu'on va avoir quelque chose qui est d'une richesse encore beaucoup plus grande. Donc, la richesse du langage, la richesse des espaces topologiques, tout ça, c'est contenu dans le concept de topos. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Lacan et Grothendieck ont déjeuné ensemble, je crois que c'était
déjeuner. Ah oui, ils se sont rencontrés.
Chez Daniel Siboney.
Et ils se sont rencontrés aussi.
Dans les années 70. Et apparemment, ça s'est pas très bien passé. Donc, en fait, notre livre, c'est un peu ce qui aurait pu se produire, si vous voulez.
Entre les deux. S'ils avaient parlé la même langue à ce sujet, j'ai quand même envie de vous soumettre la question d'un de nos auditeurs, Assidikou Diallo à Conakry, qui d'ailleurs a très envie qu'on vous pose sa question, parce qu'il dit qu'il fait des recherches, lui, pour faire des mathématiques dans sa langue maternelle, en full D. Oui. Il vous demande, est-ce que la mathématique a une langue spécifique ? Est-ce qu'il est possible de faire toutes les mathématiques dans n'importe quelle langue du monde depuis Conakry, Guinée.
Écoutez, il y a une réponse qui est fantastique à cette question-là. C'est qu'en fait, les mathématiques sont la seule langue qui devrait nous permettre de communiquer avec une civilisation venant d'une autre planète, etc. Pourquoi ? Mais parce que c'est la différence fondamentale, justement, entre un langage dont nous venons de parler, c'est qu'un langage, un mot réfère à un autre mot.
Oui.
Et bon, donc en fait, alors que si on vit sur la même planète, tout ça, on peut arriver à comprendre qu'un mot va se traduire en un autre, il n'y a pas de sens fondamental intrinsèque. Alors que justement, le Linkos a été un langage qui a été inventé dans les années par un mathématicien qui s'appelle Freudenthal, et il l'a inventé exactement comme étant le seul langage permettant de communiquer avec une autre civilisation.
Ah oui, donc si on veut pouvoir communiquer avec d'autres civilisations,
voilà,
s'échapper de notre espace temporel, il faut faire des mathématiques.
Il ne faut pas faire des mathématiques, mais disons que les mathématiques en tant que langage sont le seul langage permettant cette communication. C'est comme ça qu'il faut dire.
Et ça, on va y revenir au cours de cette émission parce que c'est fondamental pour vous, Alain Cohn. C'est la portée des mathématiques, c'est-à-dire langage universel, mais aussi créateur de concepts fondamentaux, philosophiques. Enfin, c'est vraiment la clé pour les esprits libres que vous êtes, vous, Alain Cohn, pour celui qui était Grothendieck, esprit libre et même radical par excellence. Je vous propose d'écouter une fois encore Grothendieck, justement autour de cette question, alors, de la liberté, ou plutôt du rêve, de laisser rêver pour démontrer, grâce à la lecture de son œuvre ultime, monumentale, hein, les récoltes et les semailles, paru début 2022 en coffret chez Gallimard. Extrait choisi donc sur l'importance du rêve en sciences mathématiques, lu toujours par la comédienne Anouk Grimbert.
Mais revenons au rêve et à l'interdit qui le frappe en mathématiques depuis des millénaires. C'est là le plus invétéré peut-être parmi tous les a priori, implicite souvent et enraciné dans les habitudes, décrétant que telle chose, c'est des maths, et telle autre, non. Il a fallu des millénaires avant que des choses aussi enfantines et omniprésentes que les groupes de symétrie de certaines figures géométriques, les formes topologiques de certaines autres, le nombre zéro, les ensembles, trouvent admission dans le sanctuaire. Quand je parle à des étudiants de la topologie d'une sphère et des formes qui se déduisent d'une sphère en ajoutant des anses, choses qui ne surprennent pas les jeunes enfants mais qui les déroutent parce qu'ils croient savoir ce que c'est que des maths, le premier écho spontané que je reçois est « mais c'est pas des maths ça !» Les maths, hein, bien sûr, c'est le théorème de Pythagore, les hauteurs d'un triangle et les polynômes du second degré. Ces étudiants ne sont pas plus stupides que vous ni moi. Ils réagissent comme on réagit de tout temps jusqu'à aujourd'hui même tous les mathématiciens du monde, sauf des gens comme Pythagore ou Riemann et peut-être 5 ou 6 autres. Poincaré même, qui n'était pas le premier venu, arrivait à prouver par un A plus B philosophique bien senti que les ensembles infinis, c'était pas des maths. Sûrement, il a dû y avoir un temps où les triangles et les carrés, c'était pas des maths. C'était des dessins que les gosses ou les artisans potiers traçaient sur le sable ou dans l'argile des vases, pas confondre. Cette inertie foncière de l'esprit, étouffée par son savoir, n'est pas propre, certes, aux mathématiciens. Je suis en train de m'éloigner quelque peu de mon propos. L'interdit qui frappe le rêve mathématique. Et à travers lui, tout ce qui ne se présente pas sous les aspects habituels du produit fini, prêt à la consommation. Bannir le rêve, c'est bannir la source, la condamner à une existence occulte. Et je sais bien aussi, par une expérience qui ne s'est pas démentie depuis mes premières et juvéniles amours avec la mathématique, ceci, dans le déploiement d'une vision vaste ou profonde des choses mathématiques, c'est ce déploiement d'une vision et d'une compréhension, cette pénétration progressive qui constamment précède la démonstration, qui la rend possible et lui donne son sens.
L'importance du rêve en mathématiques, de se laisser pénétrer entièrement, voulez-vous réagir, approfondir peut-être ce que vient de dire Grothendieck, mathématicien et radical, puisqu'à la fin de sa vie, il a même arrêté la recherche et très visionnaire, écologique, mais il s'est retiré du monde totalement.
Oui, en fait, je pense que je vais utiliser ce qu'il vient de dire simplement pour nous démarquer de l'intelligence artificielle. Et pour nous démarquer d'une espèce de point de vue, je dirais, utilitariste des mathématiques. Je veux dire, en fait, vous savez, il y a cette période de 1830 où étaient Galois, où étaient Jacobi, Legendre, etc. Très grands mathématiciens. Et je crois que c'était Jacobi qui avait envoyé une lettre à Legendre en lui disant que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain. Donc, si vous voulez, c'était, ça montrait bien. Alors, évidemment, je veux dire, la science a des réalisations tellement fondamentales, mais on ne doit pas vendre notre âme au diable en pensant, en faisant croire surtout aux gens que l'intelligence artificielle ou l'ordinateur, etc., va finir par remplacer l'esprit humain. Parce que justement, ce qui caractérise l'esprit humain en particulier, c'est le rêve, cette possibilité qu'a l'esprit humain d'imaginer des concepts. Et alors, je vais retomber dans des choses beaucoup plus terre-à-terre, si vous voulez, pour essayer d'expliquer quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Parce que j'avais lu ou j'avais vu écrites des équations par les Babyloniens qui écrivaient des équations du second degré. Et je m'étais demandé, mais comment, diable, était-il possible qu'ils en arrivent à additionner des longueurs et des surfaces? Parce que quand vous écrivez une équation du second degré, vous écrivez A carré plus et A. Donc, c'est une espèce de sacrilège. Un sacrilège. Or, c'est le début de l'algèbre. Je veux dire, l'algèbre n'existerait pas si on n'avait pas fait ce sacrilège.
Oser faire ça.
Alors, d'où ça vient? D'où ça vient? Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était probablement l'origine de ce sacrilège, tellement, tellement profitable. Ça a été l'invention de l'argent.
Ah ouais.
Pourquoi? Je vais essayer de vous l'expliquer par une explication très courte. Imaginez que vous vouliez acheter un champ, d'accord? Et pour traiter ce champ, il va falloir que vous payiez tant par mètre carré et que vous vouliez le clôturer aussi. Donc vous allez payer tant par mètre de clôture. Et vous voulez optimiser, c'est-à-dire vous avez une certaine quantité d'argent et vous voulez savoir quelle est la taille du champ que vous pouvez acheter. Et bien à ce moment-là, vous avez à résoudre une équation de second degré.
Et voilà.
Mais, entre-temps, un concept a été créé qui est le concept d'argent. C'est la possibilité de donner un prix à chaque chose et non plus de faire du troc, c'est-à-dire d'échanger une chose contre une autre, mais d'élaborer le concept abstrait de l'argent. On le prend pour acquis, bien sûr, maintenant. Et on croit, si vous voulez, on a cette naïveté de penser que ça a été très facile à créer ce concept. Non.
Mais non. Il a fallu des esprits libres. Et c'est ça le rôle des mathématiques. On va y revenir autour de la question comment et pourquoi les mathématiques créent des concepts aussi fondamentaux.
Voilà, je pense que c'est l'essence de ce qu'on discute, absolument.
Eh bien, on va y revenir dans quelques instants, jusqu'après, comment dire, une petite surprise que j'ai eue moi-même.
Oui.
Autour d'Alexandre Grothendieck, comment dire, en tombant sur le net, en surfant nez à nez, en tombant cœur à cœur, ou plutôt d'oreille à oreille, sur les kalimbas du Ventoux. Alors, c'est des senza, ces petits instruments, sortes de piano à main, petites calebasses, des instruments joués dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest, qui sont fabriqués entre la France et le Sénégal par, devinez qui, Alexandre Grothendieck.
Le fils.
Et
le
voilà, fils, mais je ne le savais pas, qui n'est autre que le fils du mathématicien Alexandre Grothendieck.
Je veux dire, il a trois fils.
Exactement. Alors, en tout cas, chers amis auditrices et auditeurs, je vous invite à aller voir sur le site d'Alexandre Grothendieck, fils, les kalimbas du Ventoux, pour découvrir notamment son ami Aliou Ndiaye, qui les fabrique désormais, ses senza, ses kalimbas, entre la Casamance et Dakar, où il vit.
Bonsoir. Je suis africain. Mais si j'ai découvert la kalimba, c'est à cause d'un gars qui est français. Il s'appelle Alexandre Grothendieck. Et au bout d'un moment, je suis tombé amoureux de l'instrument.
Génial, kalimba d'Aliou Nsan et d'Alexandre Grothendieck Fix, avec pour le plaisir une petite pépite supplémentaire juste pour vous, extrait du CD Kalimba, le morceau à pas de fourmi, composé et interprété par les deux fils Grothendieck, Alexandre et surtout Mathieu Grothendieck, Matt Grothendieck à la guitare et au percu sur RFI.
Super. Thank you.
joli, n'est-ce pas, Alain
Cohn ? Oh, oui, très, très intéressant. Oui.
Mathieu Grothendieck et Alexandre Grothendieck, les deux fils du génial mathématicien.
Attendez, il a trois fils, hein. Il y a John aussi. Hein.
Ah bah alors citons John aussi. Ouais.
Et absolument. Puis Serge aussi, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. En fait, il a quatre fils et une fille, Johanna, que je connais très bien, en fait. Oui.
Saluons les enfants Grothendieck sur RFI et vous pouvez le découvrir en CD sur le site Kalimba du Ventoux, ce morceau et cet album de Mathieu Grothendieck. Autour de la question, comment les mathématiques et l'esprit libre et ouvert des mathématiciens, quand ils l'ont, comme vous, cher Alain Cohn, peuvent créer des concepts fondamentaux. Au fond, quel est le rôle des mathématiques ? J'ai l'impression, en vous lisant, en vous écoutant, en ayant la chance d'être en face de vous, qu'on se trompe complètement sur ce que c'est que les mathématiques.
Oui, l'image commune des mathématiciens ne correspond absolument pas à l'activité du mathématicien. Absolument pas. Je pense que en plus, si vous voulez, surtout, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on essaye de prouver, comme s'il le fallait, l'utilité des mathématiques. Non. Et en fait...
Enfin, elles ont une énorme utilité. Pour nous, pour notre humanité, pour les concepts, pour nous faire avancer.
Ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, il y a des mathématiques partout. Il y a des mathématiques partout. Je lisais l'article du Monde avec je ne sais pas quel pourcentage dans l'économie. Bien entendu qu'il y a des mathématiques. Bien entendu aussi que l'ordinateur nous aide, si vous voulez, et pourra d'une certaine manière remplacer cette partie un peu, je dirais, un peu triviale. Mais ce n'est pas ça le rôle fondamental des mathématiques.
Ce n'est pas le calcul, en fait, en gros.
Surtout pas. Si vous voulez, si les gens s'imaginent, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont chercher ?» Mais en fait, non. En fait, les mathématiciens explorent une terre immense dont parle Grothendieck, il en parle merveilleusement bien. Et à travers cette exploration, il rencontre de temps en temps, il y a certains mathématiciens géniaux comme Riemann qui émettent des conjectures. Alors, ces conjectures, elles posent un problème qu'on doit résoudre. Pour résoudre ce problème, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est forcé, pour résoudre un problème ou un autre, de justement d'avancer dans cette découverte du monde mathématique et à l'occasion, bien entendu, de créer des concepts nouveaux. Grothendieck en a créé plusieurs, mais il le dit très bien dans son texte que parmi les concepts qu'il a créés, c'est le concept de topos qui a sa préférence de loin et qui lui paraît un concept que personne d'autre que lui n'aurait pu créer.
Et c'est ce concept-là que vous nous invitez finalement un peu à approcher, parce qu'aussi pas mal de mystères, notamment autour du quantique, sont aussi de cet ordre-là, parce que ça permettrait d'ouvrir notre esprit à complètement autre chose, changer de...
Non. Ce qu'il y a, c'est plus précis. Ne parlons pas du quantique, parce que je parlerai trop de ce que je fais, etc., si vous voulez. Je veux parler de Grothendieck. Ce qui est étonnant dans le concept de topos, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est sa portée philosophique. C'est le fait que, même si on n'est pas mathématicien, on peut très très bien comprendre que pour essayer d'apprécier quelque chose, alors je parlais d'un espace, eh bien on n'essaye plus de le regarder directement, mais on essaye de le faire agir ordinairement et de comprendre à travers ses actions ordinaires ce qu'il a de particulier. C'est merveilleux, ça.
C'est merveilleux. Ça s'appliquerait aux humains aussi,
mais
aux
bien
hommes
sûr.
Que nous
c'est
sommes.
Pour ça. Mais c'est pour ça qu'on dit que chaque être humain, a un topos.
Singulier,
qui est le topos de son inconscient et qui fait sa singularité. C'est exactement le contenu de notre livre. Le contenu de notre livre, c'est devant mon discours de cette métaphore du topos, on s'est rendu à l'évidence. Mais bien sûr, ça correspond exactement à ce que nous sommes. Mais chacun d'entre nous est un être unique. Et donc, chacun d'entre nous a un topos particulier qui lui est propre. Et alors, la merveille des merveilles, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ben d'accord. Hein. Mais en fait, il y a ce lien des topos avec la logique qui fait que chaque topos a ses valeurs de vérité, c'est-à-dire sa propre logique, et que quand on prend un point d'un topos, alors c'est ce qu'on appelle un instant, eh bien, on retourne à la logique ordinaire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, quand on dit oui, mais cette personne est contradictoire. Vous savez, quand on est simpliste et qu'on écoute une discussion à la radio, une discussion politique, etc., et qu'on dit noir ou blanc, eh bien, les topos permettent justement exactement la nuance qui manque. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment de sa vie, Grothendieck dit qu'il a un peu patiné dans la choucroute. C'était entre les années 70 et 72 ou 73. Et il a, comment dire, il a essayé d'argumenter contre le fait de faire des maths, parce que justement, il ne fallait pas que les maths soient utiles pour les militaires, etc. Et à un moment donné, il faut absolument que je vous lise ce qu'il
allez-y,
a dit.
Ce sera notre mot de la fin.
Alors,
allez-y,
ce sera notre
Alain
mot de la fin. J'espère que je vais le trouver. Parce qu'il il a dit exactement ce qui, en fait...
montre sa la singularité de son topos,
non,
à lui.
Non, montre qu'il n'avait pas compris la portée de ce qu'il faisait avec les topos.
Oui.
Voilà ce qu'il dit. Il répond à quelqu'un. Donc, c'est pas dans son dialogue au CERN. Il répond à une question. Il dit, à propos de votre image de l'homme ange et démon, je ne crois pas à cette dichotomie du bien et du mal. Je ne partage pas cette façon de voir. Il y a plutôt un mélange complexe de deux principes opposés. Si vous le permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence sur la pensée générale. Là, il va se planter complètement. Une chose m'avait déjà frappé avant d'en arriver à une critique d'ensemble de la science, ce qui fait depuis près de 2 ans. C'est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement mathématique quand on le confronte avec les phénomènes de la vie, avec les phénomènes naturels. Les modèles que nous fournit les mathématiques, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lead procuste pour la réalité. Une chose toute particulière en mathématiques, c'est que chaque proposition, si l'on met à part les subtilités logiques, est ou bien vraie ou bien fausse. Il n'y a pas de milieu entre les deux. La dichotomie est totale. En fait, cela ne correspond absolument pas à la nature des choses. Dans la nature, dans la vie, il n'y a pas de proposition qui soit absolument vraie ou absolument fausse. Il y a même lieu, souvent, pour bien appréhender la réalité, de prendre en ligne de compte des aspects en apparence contradictoires, en tout cas des aspects complémentaires, et tous les deux sont importants. D'un point de vue plus élémentaire, aucune porte n'est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte. Ça n'a pas de sens. Alors, là, il se plante complètement, parce que c'est lui qui a inventé les topos, et la logique des topos permet exactement de lever ce problème avec les mathématiques et de les rendre efficaces justement dans ce genre de situation.
Magnifique Alain Cohn, merci infiniment d'avoir fait escale dans notre studio. Je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Patrick Gauthier-Lafaille, À l'ombre de Grothendieck et de Lacan, un topo sur l'inconscient. Vous revenez quand vous voulez nous faire rêver, comprendre le rôle philosophique des mathématiques et que nous avons tous notre propre topo singulier. Moi je reste là-dessus, chers amis auditeurs, merci Alain Cohn.
Merci.